Tout d'abord, je voudrais remercier le public qui est là pour assister à cette conférence, puis Madame De Guil-M pour organiser ici à la MMSH ce séminaire de réflexion, toujours avec beaucoup de bienveillance d'une part et puis de rapidité dans l'organisation. L'Institut d'études politiques également, puisque le professeur Sina a été invité pendant 2 semaines par l'Institut d'études politiques comme un professeur étranger invité, et bien évidemment le conférencier, professeur Sina. Je voudrais dire que sur les 2 semaines qui viennent donc de se passer, le professeur Sina a donné une perspective extrêmement générale sur l'Inde et, par exemple, la question des réfugiés, India and Refugees. Et nous avons eu une séance très intéressante, notamment sur la question des Tibétains et le traitement politico-juridique des Tibétains, Tibetan Refugees in India. C'était une question extrêmement intéressante, très différente de la question donc de l'accueil des Sri Lankais. Les tigres en tamoul. Nous avons eu aussi une conférence publique sur les opérations de maintien de la paix et l'Inde, ou bien l'Inde et les Nations Unies, la politique donc de l'Inde, onusienne. Une séance très forte aussi sur les approches du tiers-monde du droit international, les nouvelles approches du tiers-monde sur le droit international. Ce matin, nous avions une séance sur le multiculturalisme, et nous sommes passés de Alexandre le Grand, qui est allé jusqu'à l'Indus, donc le fleuve qui part du Tibet justement jusqu'au Pakistan et qui débouche dans l'océan Indien. Et Alexandre est allé jusque à l'Indus, et Alexandre est considéré comme le premier des Européens modernes, ou bien comme ayant mis sur pied un vaste empire cosmopolite, reprenant celui les territoires de l'empire achéménide. Bref, la question donc des femmes en Inde, la question du droit des femmes en Inde, pour ma part, me conduira à faire 3 remarques introductives. La première remarque, the first remark, will be on the CEDAW Convention, the Convention of the UN on the discrimination against women. Elimination of discrimination. Cette convention des Nations Unies has been adopted in 1979. Sur cette convention mondiale, qui est un objectif mondial, on peut dire la chose suivante. Dans son préambule, le véritable esprit, the true spirit of the convention, is to overcome discrimination against women, de dépasser, de lutter, to fight against discrimination, mais pour aboutir à l'égalité entre hommes et femmes, entre femmes et hommes, in order to achieve equality. Ce n'est pas simplement une convention donc de non-discrimination, c'est une convention qui tend vers l'égalité. Et il y a bien 2 rubriques différentes, la rubrique de la non-discrimination et la rubrique de l'égalité. On peut dire également de cette convention de 79 qu'elle s'inscrit dans tout un ensemble de luttes. It is a fighting convention. Fighting against colonialism, apartheid, racial discrimination et enfin discrimination contre les femmes. En fait, racial prejudice et tout ça sont des étapes préalables. En tout cas, ont été pensées comme des étapes préalables, et c'est comme ça que s'inscrit la convention donc contre les discriminations faites aux femmes.
Les étapes préalables, j'ai pas compris.
Eh bien, cette convention, elle a connu des étapes préalables, preliminary stages. C'est la lutte contre l'apartheid, fight against apartheid, fight against colonialism. Fight against racial prejudice. Et enfin, lutte contre les discriminations faites aux femmes. Parmi les discriminations particulièrement innovantes, il y a l'article 5. L'article 5, il comporte l'idée qu'il faut lutter contre les pensées stéréotypées des hommes et des femmes, des rapports stéréotypés of men and women. This is the object of Article 5. Alors, cela veut dire que la Convention vise à lutter contre les préjugés de l'esprit. Les préjugés de l'esprit. Enfin, je souhaiterais citer l'article 16 de cette Convention. Article 16 is about equality between man and woman, woman and man, dans les rapports familiaux, within the family, within the private sphere. Cette convention, l'Inde l'a ratifiée depuis 1993, India has ratified. Mais l'Inde has not accepted the CEDAW optional protocol. Le protocole optionnel de la CEDAW, il vise, lui, à permettre des plaintes. So, this is not accepted by it. Deuxième point introductif, la constitution indienne. La constitution indienne a été adoptée après le départ des Britanniques en 1949. Just after the British colonization, et la disposition centrale is Article 15, which prohibits any discrimination founded on religion, race, caste, place of origin, and sex. Ce qui veut dire que tous les autres motifs de distinction, every other motive is allowed to differentiate, not sex. Sur la base, on the foundation of Article 15, the Supreme Court of India has fait émerger affirmative action, but we know that in Article 15, paragraph 3, there is a special mention for affirmative action related to women and to children. Wherever there are girls or boys, of course. Donc, il y avait déjà dès 1949, dans l'esprit de la case law, US case law of the Supreme Court, l'idée d'une affirmative action policy. Sachant que, en plus, il y a dans la Constitution, article 16, special mention for a reservation policy. Ce qui est encore autre chose, which is something else. Mais l'article 15 se présente comme la disposition centrale sur l'interdiction donc de la discrimination sur la base du sexe, notamment. En plus de cet article 15, je crois qu'il y a une seconde disposition tout à fait centrale et tout à fait intéressante qui est l'article 44. Article 44. L'article 44 fait partie du chapitre sur les principes directeurs de politique publique. Les principes directeurs de politique publique, ce sont les objectifs que l'État se fixe à lui-même. Et très souvent, ce sont des objectifs de nature sociale. They are often of social nature. L'article 44, adopté en 1949, prévoyez que l'Inde se dote d'un code civil uniforme, Uniform Civil Code, for all India, parce que l'Inde is made of many, many, many civil status, personal status, et bien sûr, dans ses statuts personnels diversifiés, musulmans, hindous, jaïns, bouddhistes, chrétiens, and so on, la condition de la femme n'est absolument pas la même. La condition de la femme dans la vie privée, dans les rapports de vie privée. Il faut donc bien distinguer, one has to distinguish clearly la femme within a personal sphere, and in relation to that, her status is of religious nature, Et puis la femme, dans l'ordre public, in the public sphere. Et là, c'est le droit constitutionnel qui s'applique. Ce qui veut dire que, tant que, as long as there is no uniform civil code, la partie privée de la femme, la vie privée de la femme, private life of woman, is under religious consideration, et la vie publique de la femme, the public life of woman, falls into article 15. Parce que, pour l'instant, ce fameux code civil uniforme pour l'Inde, un code donc des personnes uniques, un peu comme en France, il y a le code civil, eh bien, c'est resté lettre morte. It has not been adopted. It has not been adopted. Et l'argumentation de l'État indien est de dire les communautés religieuses doivent prendre les devants. Religious communities has to be involved into the writing of a civil code. They don't. Bien sûr, elles ne le font pas. Donc, ça veut dire que la femme est partagée donc, entre ses espaces privés et publics, du point de vue de ses droits. Je termine par une troisième considération qui est relative à la condition de la femme, du point de vue de quelques grandes questions, comme la dot, dowry, la violence sexuelle, le ratio homme-femme à la naissance, the birth ratio between boys and girls, et puis le mariage arrangé. Alors le mariage arrangé, je veux dire quelques mots, et je sais que le professeur Sina complétera sur le mariage arrangé, complétera sur ces autres éléments. Sur le mariage arrangé, on peut avoir les considérations suivantes. Premièrement, en Inde, le système des castes, le mariage arrangé, caste system on one side and arranged marriage are intimate. Elles ont une relation de très forte intimité. À savoir que les castes favorisent le mariage arrangé favorise les castes. Ce n'est pas pour rien qu'en Occident, donc, il y a toute cette question, tout ce questionnement sur soit le mariage arrangé, soit le caste. Les dons vont absolument de pair. Et ils sont au centre de la problématique sociale de la femme. Deuxième point, en Inde actuellement, même si ce n'est pas du tout de part égale, il y a deux conceptions en contradiction, en confrontation, et c'est un peu une émergence. Il y a d'un côté le mariage arrangé et les agences matrimoniales, agencies for arranged marriages, et de l'autre, il y a une pratique sociale, parfois soutenue, sometimes sustained by NGO, qui favorise certains jeunes qui demandent, who are asking for a love marriage. Et alors, il y a d'un côté une agence matrimoniale, a matrimonial agency as a commercial activity, et de l'autre, il y a des ONG, NGO, qui favorisent là le mariage d'amour. Parce que, la chose est la suivante, le mariage arrangé, c'est un mariage de famille, bien évidemment. Donc il y a derrière le mariage arrangé toutes les familles, tout l'accompagnement familial de l'enfance, de l'adolescence, des familles, de leurs biens, etc. Si le choix, if choice is done, d'un love marriage, souvent, et la plupart du temps, pas toujours, souvent les familles sont en rupture. There's a disruption between the two lovers. Les familles sont à côté, en confrontation. Et donc il faut bien un appui, et ce sont certaines de ces NGO qui le donnent, cet appui.
Ils sont en rupture, les familles, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec cette union.
Ils ne veulent pas.
Parce que ce n'est pas de la même caste.
Pas simplement. Parce que ça ne correspond pas à ce qui a été pensé, à ce qui a été imaginé. Imaginez. Il ne faut pas oublier non plus, c'est un point important pour comprendre le mariage arrangé, que le mariage arrangé, il n'y a pas de relation sexuelle possible avant le mariage. Et ça, c'est évidemment un gros problème. Ils doivent attendre. Et soit on confie le mariage aux parents, soit on se met en rupture du modèle familial, de caste, de tout ce qui nous a structurés jusqu'à présent. Évidemment, dans le mariage d'amour, il y a un danger. Si la famille respective accepte, c'est très bien. If respective families are accepting it, it's very good. Mais il y a un danger, il y a une prise de risque. Parce qu'on fait un franchissement social. C'est un franchissement social qui n'est pas nécessairement un franchissement religieux, un franchissement de caste. Mais on s'exclut. On s'exclut. Ce qui veut dire que il y a une sorte de course contre la montre. Il y a une course contre la montre pour empêcher que les barrières sociales puissent produire leur effet. Et le mariage, quel qu'il soit, va avoir une triple légitimité, une triple légitimation. Première légitimation, social legitimation. Deuxième légitimation, legal legitimation. Et la troisième, sexual legitimation. C'est donc extrêmement important. Et c'est à ça que servent les fameuses NGO. Faire en sorte de légitimer, favoriser. Voilà. D'un autre côté, le mariage arrangé, lui, il n'est pas gagné. Parce qu'on ne sait pas nécessairement qui est de l'autre côté. Et il peut y avoir aussi, avec ces agences matrimoniales, un travail d'enquête. Bref, je termine en disant la chose suivante sur les nouvelles technologies. Nouvelles technologies, new technologies and marriage. D'un côté, il y a le web. Web is in favor of mariage arrangé, arranged marriage. Because you can check on the web the photo, the alleged quality of the girl, of the guy. So web is in favor of mariage arrangé. On the other side, you have the mobile telephone. And the mobile telephone is, I would say, it's an outcast system because it allows young boy to phone two girls and to catch the girl. L'usage social du téléphone n'est pas du tout le même, et pas du tout le même que celui du web, qui est finalement beaucoup plus conservateur. En même temps, le harcèlement téléphonique, parce que c'est à ça que ça donne lieu, le harcèlement téléphonique, telephone harassment, il y a des hotlines gérées par la police pour retrouver celui qui utilise le téléphone portable comme un moyen de harcèlement, comme moyen de franchissement, parfois de violation d'intimité, mais pas toujours. Bref, en l'état actuel, en Inde, le mariage arrangé reste quand même largement, it remains mostly the privileged form of marriage, le mariage arrangé. Et que l'on soit jeune ou que l'on soit vieux, les témoignages favorables sont très nombreux. Et souvent, quand il y a une difficulté, on essaie de faire passer un mariage d'amour comme un mariage arrangé. Aux yeux de la famille, on trafique pour que ce qui est un mariage d'amour apparaisse aux yeux des pères en particulier. For the father eyes. To be an arranged marriage, despite it is at the beginning a love affair. Voilà. Merci pour votre attention. J'en ai fini avec cette présentation.